Chapitre 4. Le bruit des verrous tirés du dehors le fit tressaillir. Il sauta vivement à terre et il vit, non sans surprise, entrer dans sa cellule le directeur de la prison. « Bonjour, monsieur, lui dit ce grave fonctionnaire avec une politesse marquée. J'ai une heureuse nouvelle. Je viens de recevoir l'ordre de lever votre écrou, et dès ce moment, vous êtes libre. » Ces mots magiques « vous êtes libre » qui 3 jours plus tôt auraient jeté Servon dans un accès de folle joie, le laissèrent froid comme un marbre. Il remercia brièvement le bienveillant directeur qui semblait très surpris de l'indifférence de son prisonnier, et il s'habilla lentement en pensant que, de l'autre côté des murs de la prison, il allait retrouver de graves soucis. La liberté, pour le vicomte, c'était l'inconnu. Pourquoi venait-on la lui rendre subitement après la lui avoir si injustement enlevée? Que s'était-il passé depuis qu'il avait été retranché du monde et quelle situation lui avait fait son incroyable aventure? Il résolut de s'assurer avant tout du terrain sur lequel il allait marcher et il pensa tout naturellement à aller voir Charles de Presset, le seul ami en qui il eut une confiance absolue. 1 heure après, le vicomte, débarrassé des formalités de la sortie, roulait en fiacre vers la rue Royale, où demeurait Presset. Il n'était pas inquiet de l'accueil qui l'attendait chez le plus ancien et le plus sûr de tous ses amis, mais il éprouvait une sorte de malaise en pensant qu'il allait avoir à raconter sa triste aventure. Il regardait vaguement les boulevards envahis par la bruyante armée des balayeurs. Il examinait les maisons encore endormies. Arrivé à la porte de son ami, Servon sonna en homme pressé. Le valet de chambre qui vint lui ouvrir le regarda d'un air ébahi et lui dit que son maître dormait encore. En effet, il était à peine 8 heures. Mais le vicomte insista et entra sur les talons du domestique dans la chambre de Presset, qui s'étirait les bras et jurait entre ses bras. « Oh, c'est toi !» grommela celui-ci, quand il réussit à ouvrir les yeux. « Mais quel diable te pousse à venir m'empêcher de dormir? Es-tu fou de courir les rues avant le jour? D'où sors-tu? Oh, je parie que tu as encore perdu cette nuit !» À ce flux de paroles incohérentes, la stupéfaction de Servon fut grande. Presset semblait ignorer son aventure. Mais alors, d'où lui venait l'envoi qu'il avait reçu en prison? Le vicomte n'était pas au bout de ses étonnements. « Ah, au fait, continua Presset, oh oui, je me rappelle maintenant que tu reviens de la chasse puisque je t'ai fait envoyer du linge. Mais... d'où t'est venue cette idée d'aller forcer un sanglier en Sologne par un temps abominable et de partir sans même prendre le temps d'en prévenir ton valet de chambre? Ce sanglier-là m'a tout l'air d'une blague, et au bout de ton département, il doit y avoir une châtelaine quelconque. Je ne te croyais pas si dangereux. » La figure du pauvre Servon devait exprimer une surprise bien comique, car Presset, qui s'était réveillé tout à fait, finit par éclater de rire en le regardant. « Ha, ha, ha !» continua-t-il. « Es-tu amoureux, au moins, d'être devenu idiot? Mais regarde-toi dans la glace et vois quelle singulière figure tu fais !» Servon essaya de se remettre et balbutia. « Oui, 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 j'ai été obligé de partir très vite. Je ne savais pas, j'avais oublié... » « Voyons, décidément, tu perds l'esprit. Et s'il faut absolument que je te remette sur la voie, je vais faire à ton usage l'histoire de la semaine. Samedi dernier, je t'invite à dîner pour le lendemain chez moi. Une petite fête que j'avais organisée, qui, entre parenthèses, était charmante. Tu acceptes, ton couvert est mis, et naturellement, tu ne viens pas. On t'a même attendu, et tu as été cause que les perdreaux étaient trop cuits. Je t'avais pardonné, je n'y pensais plus. Lorsque, lundi, je crois, on m'envoie des heures indues un monsieur qui prétend venir de ta part. Il est très poli, ce monsieur, mais il a été à ton école et réveille les gens de bien bonne heure. Il m'a raconté que tu étais parti sans avoir le temps de prévenir à ton domicile. Il m'a demandé un mot pour ton valet de chambre afin de se faire remettre un paquet qu'il devait apporter. Je lui ai écrit ce qu'il voulait, sans comprendre grand-chose à tes faits et gestes. Mais comme je t'ai toujours connu un peu original, je ne m'en suis pas autrement préoccupé. Mais ton air ahuri commence à me donner des soupçons. Aurais-tu été la victime d'un filou qui se serait servi de mon intermédiaire pour s'habiller aux dépens de ta garde-robe? Oh, l'aventure serait bien drôle. Voyons, as-tu reçu l'envoi, oui ou non? Oui, oui, j'avais oublié. Oh, c'est bien de ma part qu'on est venu et je te remercie. En répondant ainsi, le pauvre vicomte parlait sans trop savoir ce qu'il disait. Il sentait la nécessité de faire bonne contenance et en même temps, il mourait d'envie d'apprendre ce qui avait pu se passer en son absence. Était-il vraiment possible que tout le monde ignorât son arrestation? Une nouvelle question de son ami va la désarçonner tout à fait. « Mais au fait, reprit Presset, quel vent t'amène à l'heure où les honnêtes gens dorment à point fermé? Oh, décidément, tu passes à l'état de réveil matin. C'est une manie qui n'était guère autrefois dans tes habitudes, et mon pauvre ami, tu m'inquiètes sérieusement. » La plaisanterie portait juste et il fallait absolument trouver une explication à une visite aussi matinale. C'est bien simple, répondit Servon en cherchant à reprendre son aplomb. J'arrive de la gare d'Orléans et j'ai pas envie de dormir. Bon, c'est pas une raison pour réveiller les autres. Oui, parfaitement raisonné. Aussi te permets-je de m'injurier, à condition que tu te lèveras et que tu m'offriras à déjeuner. Ah, il faut que je t'aime bien pour ne pas te mettre à la porte. Mais à présent que tu m'as réveillé, le mal est fait, et je crois que le mieux est encore de t'inviter à déjeuner. Une heure après, Servon était attablé avec son ami, en fin d'une côtelette et d'un pâté de foie gras, qu'il attaqua avec un appétit de naufragé. Il espérait que Presset arriverait de lui-même au sujet qui l'intéressait le plus. Et celui-ci vint, en effet, sur une allusion au cercle et à la grosse partie. « Ah, à propos, dit-il, sais-tu la forte nouvelle ?»« Laquelle ?»« Eh, parbleu, la mort de ce gredin de Pancorvo. On ne lit donc pas la gazette des tribunaux en Sologne ?»« Non, on la lit très peu. » « Oui, mon cher, oh, ce seigneur d'outre-mer a trouvé une fin digne de ses mérites. On l'a ramassé parfaitement assassiné dans quelques bouges de Montmartre. Et le plus curieux, c'est que son meurtrier n'est autre que le valet de chambre du cercle. Tu sais, un brin qui avait un air à porter le diable en terre. Antoine ou Richard, je ne sais plus trop. Mais quelle histoire, ce grenu, me fais-tu là ? Et quel rapport entre ce Pancorvo et ce domestique que je me rappelle parfaitement et qui n'avait nullement l'air d'un égorgeur de gens? Ah, voilà, il paraît que notre partenaire Pancorvo était tout simplement un chef de brigand et que le Richard, lui, servait d'espion pour les expéditions nocturnes. Oh, si jamais je présente quelqu'un au cercle sans le connaître à fond, oh, je te permets de dire que je suis fou allié. Le fait est que tu aurais bien dû prendre tes précautions, des renseignements. Tu es charmant, ma parole d'honneur. As-tu l'habitude de demander leurs papiers aux gens que tu rencontres sur ton chemin? Ce Pancorvo était un coquin, mais en Orient, on n'y regarde pas de si près, et j'étais bien heureux de le rencontrer. Et l'assassin, l'a-t-on arrêté? Oh, d'aucune façon. Il a pris l'avance et doit être en ce moment bien loin de Montmartre. La justice informe, c'est connu, mais je crois qu'elle informera longtemps. On raconte même qu'on a arrêté une foule de gens, et en fait encore bien d'autres ragots, mais je te dirais que cette histoire défraie la conversation du cercle. Depuis 8 jours, et je commence à en être tellement agacé que j'aime autant passer à un autre exercice. Malgré son envie d'en savoir plus long, Servon comprit qu'il n'était pas prudent d'insister, et il leva la séance. Il avait hâte d'ailleurs de rentrer chez lui. Là aussi, il lui fut démontré que tout le monde ignorait ses terribles aventures. Le domestique du vicomte avait remis son linge à un monsieur qui s'était présenté avec un billet de monsieur de Presset, et, d'après les indications de ce même monsieur, il attendait son maître à la fin de la semaine, de sorte que le retour de Servon ne le surprit pas plus que son départ. Ainsi, cette protection mystérieuse qui couvrait Servon depuis 2 mois continuait à veiller sur lui, et un ami inconnu avait réalisé ce double prodige de démontrer son innocence au juge et de cacher son arrestation au public. Le vicomte commençait à croire qu'il vivait dans un monde fantastique, comme un personnage des contes d'Hoffmann. Un seul sentiment le rattachait encore à la vie réelle. C'était le désir fiévreux de débrouiller cet inextricable écheveau de circonstances incompréhensibles. Il sentait qu'il lui serait impossible de reprendre l'équilibre tant qu'il n'y verrait pas plus clair. Mais à qui demander la lumière? Il ne pouvait questionner personne sans laisser deviner sa malheureuse aventure. Après de longues hésitations, Servon se décida à s'adresser au juge lui-même. Il se dit qu'on ne jetait pas un bonhomme hors d'une prison sans lui donner la raison suffisante de sa mise en liberté. Et partant de cette idée, il résolut de se rendre dès le lendemain au palais de justice. La veille du jour où Henri de Servon avait été si inopinément mis en liberté, le juge chargé de l'affaire de Montmartre s'était rendu de bonne heure à son cabinet. Plusieurs témoins avaient été assignés pour midi, et en attendant le moment de les interroger, le consciencieux magistrat feuilletait de nombreux dossiers relatifs au crime commis dans la maison abandonnée. Quelque probable que parût la complicité du vicomte de Servon dans ce meurtre, le juge doutait encore et, avant d'interroger de nouveau ce prévenu du grand monde, il voulait se renseigner sur les divers personnages impliqués dans cette affaire si différente des crimes vulgaires qui passaient chaque jour devant ses yeux. Il cherchait à saisir un fil conducteur qui pût le guider dans ce dédale et lui expliquer un crime dont on n'apercevait encore ni les suites ni les causes. Les causes surtout le préoccupaient, car le vieil axiome « Is fecit qui prodest » sera éternellement vrai et il est presque impossible d'admettre que le vicomte de Servon, avec sa situation de fortune, se fût associé à ces brigands pour tuer et voler un homme quelque riche qu'il fût. La vengeance était plus probable et il fallait avant tout déterminer quel lien avait pu rattacher l'un à l'autre un homme du meilleur monde parisien, un Américain opulent et le valet de chambre d'un cercle. D'un autre côté, les attaques nocturnes encore toutes récentes, contre lesquelles le même magistrat avait été précisément chargé d'instruire, n'étaient pas sorties de sa mémoire, et une sorte d'intuition vague le portait à supposer, entre ces crimes de la rue et l'assassinat de Montmartre, une mystérieuse connexité. Pour s'éclairer, le juge avait eu naturellement recours tout d'abord aux archives de la préfecture de police, où dorment tant de redoutables renseignements, et, sur sa demande, On lui avait envoyé toutes les notes qu'on avait pu rassembler sur les trois principaux acteurs de ce drame obscur. Celles qui se rapportaient à Henri de Servon étaient absolument insignifiantes. Signalé comme viveur et comme joueur, le vicomte n'avait à son dossier aucune de ces fâcheuses affaires qui, après une catastrophe, sortent de la poussière des cartons où elles étaient ensevelies, comme les algues de la mer remontent à la surface après une tempête. Le valet de chambre Loiseau n'avait pour ainsi dire pas d'histoire. Arrivé en France depuis moins d'un an, il ne figurait dans les archives que pour mémoire et n'avait jamais donné lieu à aucune plainte. Il fallait même que sa réputation fût excellente, car dans une circonstance toute récente, à propos d'une arrestation nocturne, tous les domestiques du cercle avaient été surveillés et l'enquête avait porté sur M. Loiseau comme sur les autres, sans qu'aucun eût même soupçonné la circonstance suspecte de son double domicile. Les certificats FICA qu'il avait produits pour entrer au cercle avaient été examinés de près. Ils paraissaient réguliers, sincères. Seulement, ils émanaient invariablement d'étrangers qui avaient quitté la France. Aucun des maîtres qu'il avait servi ne put être retrouvé. Quant à sa personne, on la cherchait avec cette activité que la police s'est déployée en France. Mais les poursuites étaient restées infructueuses et Loiseau avait disparu subitement sans laisser de traces. On commençait à craindre qu'il eût trouvé moyen de passer à l'étranger, quoiqu'il eût été signalé à toutes les frontières. Restait le dossier de la victime et le juge l'étudia avec une scrupuleuse attention. « Monsieur de Pontcorvo, Bias Esteban, disait le rapport, âgé de 50 ans environ, arrivé à Paris au mois de janvier 1848, se disant chargé d'une mission pour le gouvernement de l'Équateur. Cet État n'ayant pas en ce moment de représentant à Paris, il était impossible de vérifier cette allégation. Évidemment originaire de l'Amérique espagnole, paraît avoir habité la France autrefois, porteur à son entrée en France d'une lettre de crédit d'1 million, délivrée par la maison Rothschild de Naples, et aujourd'hui entièrement épuisée. Signalé comme ayant fait à la bourse des pertes importantes. Sa maison se composait à Paris d'un intendant irlandais qui a disparu dans la nuit du crime de Montmartre et qui est activement recherché, d'un cocher nègre né aux Antilles anglaises et de 2 valets d'écurie qui paraissaient être de nationalité orientale. Ces 3 individus sont à la disposition de la justice. Quels que fussent les côtés suspects de l'individualité de M. de Pontcorvo, rien dans cette note n'était de nature à éclairer le magistrat sur les motifs qui avaient pu attirer cet étranger dans les guet-apens de Montmartre. Il ne paraissait pas d'ailleurs que la victime eût été dépouillée. On avait retrouvé, sur le cadavre de M. de Pontcorvo, sa montre, ses bijoux et sa bourse, avec une somme importante en or. Son portefeuille avait été visité par les assassins car il portait les marques de doigts ensanglantés, mais il refermait encore 5 billets de 1 000 francs. On pouvait supposer que les meurtriers avaient cherché dans ce carnet une lettre qu'ils avaient intérêt à faire disparaître. Ces renseignements ne faisaient que compliquer l'affaire d'une façon désespérante, et le zélé magistrat, qui appliquait toutes ses facultés et toute son expérience à la découverte de la vérité, ne pouvait se dissimuler qu'il perdait pied au milieu de cet océan de faits contradictoires. Penché sur son bureau, la tête appuyée sur sa main, il parcourut rapidement jusqu'aux moindres pièces de l'arsenal que la police avait mis à sa disposition, car il savait que parfois le renseignement le plus insignifiant en apparence peut donner la clé du problème le plus insoluble. Il allait ainsi des procès-verbaux du crime de Montmartre au rapport qui signalait la récente attaque nocturne. Mais il parcourut, sans rien découvrir, deux énormes liasses pleines de documents de tout genre. La dernière pièce du dossier des arrestations sur la voie publique était une sorte d'historique des bandes qui avaient désolé les rues de Paris depuis une vingtaine d'années. Ce rapport, émané d'un des agents les plus anciens de la préfecture, se terminait par le passage suivant. À partir de 1845, disait cette pièce, les attaques nocturnes cessèrent immédiatement, tant à cause de la condamnation de plusieurs bandes que par suite de la dispersion d'une association des plus dangereuses qui paraît avoir eu pour chef de 1838 à 1843 un étranger nommé Morgan. Cette société secrète se composait exclusivement des voleurs ordinaires du Levant. Elle était connue de tous ses membres sous le nom de Khob ou Horob. Ces mots, probablement arabes, servaient de passe aux affiliés qui ont réussi à se dérober tous au recherche de la justice après la disparition de leur chef survenue vers la fin de l'année 1842. L'auteur du rapport concluait en disant qu'il ne paraissait pas que les nouvelles arrestations puissent être rattachées à aucune des anciennes bandes et qu'elles étaient probablement le fait de quelques malfaiteurs isolés. Deux passages avaient frappé le clairvoyant magistrat dans cet ensemble de renseignements rétrospectifs. Un étranger, chef de bandits, disparu depuis 7 ans, les brigands d'origine orientale opérant sous ses ordres. Monsieur de Pontcorvo était étranger, et les deux valets d'écurie parlaient une langue qui paraissait être l'arabe. Quelque éloigné que fût ce renseignement, le juge résolut de ne pas le négliger. Il voulut voir d'abord l'agent qui avait signé le rapport, et il le fit demander à la préfecture, en même temps que le greffier écrivait un mandat de comparution au nom des deux Grobgroom suspects. L'homme de la police se présenta le premier. Il se nommait Jotra et exerçait son difficile métier depuis plus de 40 ans. Il en avait alors bien près de 60, mais l'âge ne lui avait rien enlevé de son ardeur et de ses qualités. Prudent, perspicace, hardi, pourvu d'une adresse extrême et doué d'une mémoire prodigieuse, il était toujours employé dans les recherches difficiles et consulté surtout pour les affaires anciennes. Sa tête contenait un véritable répertoire de faits criminels et quand il avait vu une seule fois un prévenu ou un condamné, il ne l'oubliait jamais. Probe, du reste, tout autant que s'il eût rempli des fonctions plus relevées, il était apprécié et estimé des magistrats. Le juge d'instruction, qui le connaissait de longue date, le questionna avec l'espoir de trouver dans ses souvenirs judiciaires, ordinairement si lucides, quelque indication précieuse. Il voulait savoir surtout si ce Morgan, signalé comme chef d'une bande étrangère, pouvait être M. de Pontcorvo. Il acquit promptement la certitude que l'identité était impossible. Jotra se rappelait très bien ce personnage qu'il avait été déjà dit chargé de surveiller, et il affirma que son âge ne se rapportait nullement à celui de la victime du crime de Montmartre. M. de Pontcorvo n'avait certainement pas plus de 50 ans, et l'ancien chef de brigand, s'il vivait encore, aurait largement dépassé la soixantaine. « Pour ce qui est des deux grooms, ajouta Jortra, oh, il me sera difficile de les reconnaître, car la bande de 1838 n'a jamais été saisie et les renseignements que j'ai eus dans le temps me venaient d'un agent qui avait réussi à se faire affilier et qui a laissé sa peau. Ils l'ont tué et jeté dans la Seine. Cependant, il n'est pas inutile que je les voie. J'ai un moyen quasi qui réussira peut-être. Bien, je les attends, dit le juge. Dans quelques minutes, ils seront ici. Je vais citer aussi un interprète pour la langue orientale. Si monsieur le juge d'instruction le permet, dit Joffre, je leur parlerai d'abord. Parfaitement, reprit le magistrat. J'ai pleine confiance en votre habileté. Au moment où ils entreront, que monsieur le juge d'instruction veuille bien se tenir à l'écart et ne pas se montrer, je me charge du reste. Je n'y vois aucun inconvénient. Un bruit de pas se fit entendre dans le corridor et annonça que les prévenus arrivaient avec l'escorte obligée de deux gardes municipaux. Jotra se rangea dans un coin du cabinet que la fenêtre laissait dans l'ombre et attendit. La porte s'ouvrit et laissa passer deux hommes qui ne ressemblaient guère aux accusés ordinaires. Le juge d'instruction était complètement invisible. Les deux grooms de M. de Pontcorvo, arrêtés au moment où ils cuvaient dans l'écurie leur ivresse de la veille, se présentaient dans une tenue déplorable et leur costume délabré ajoutait encore à l'apparence patibulaire qui leur était naturelle. À peine vêtus de larges pantalons de grosse toile, les pieds nus dans des sandales de cuir jaune, ils montraient des faces d'une expression bestiale. Leurs crânes rasés faisaient ressortir la saillie exagérée de leurs pommettes, et leurs yeux, brillants d'un éclat fauve, disparaissaient au fond d'une orbite surmontée d'épais sourcils. Il était tout à fait impossible de prendre ces deux sauvages pour des domestiques de bonne maison, et un tribunal les aurait condamnés sur leur mine. Ils s'assirent d'un air abruti sur deux chaises qui leur fut offerte. Les gardes se retirèrent au fond de la pièce. Tout à coup, une voix gutturale murmura presque à l'oreille des bandits le mot suivant. « Schrob ou Rob ?» Cette réponse sortit immédiatement des lèvres des deux bandits qui avaient tressailli et dressé la tête comme s'ils eussent entendu un signal. Puis Joffre émergea tout d'un coup de l'ombre où il se tenait et se planta devant droit en face d'eux. Le juge apparut de son côté. Son apparition produit un effet extraordinaire sur ces misérables. Leurs yeux hagards devinrent fixes et interrogèrent avec une anxiété visible cette figure inconnue. Mais Jotra avait l'apparence la plus débonnaire et sa figure tranquille, encadrée par un respectable collier de favoris blancs, était de celle qui n'exprime absolument rien. On lisait dans les yeux des deux prétendus grooms qu'ils se demandaient si c'était bien cet honnête bourgeois qui avait parlé. Jotra, de son côté, les examinait avec son regard pénétrant, habitué à scruter les visages et à sonder les consciences, et on devinait qu'il faisait appel à toutes les ressources de sa merveilleuse mission. Le juge ne perdait rien de cette scène muette, et le greffier semblait pétrifié. « Eh bien, dit le magistrat avec une curiosité inquiète, eh bien, monsieur le juge d'instruction, si ces deux gaillards-là avaient 10 ans de plus, je jurerais qu'ils ont travaillé autrefois sous Morgan. Mais ils me font l'effet d'être un peu bien jeunes pour avoir fait partie de la vieille bande de la petite Pologne. En effet, les deux coquins, malgré leur peau tannée et leur front ridé, n'accusaient guère plus de 25 ans. Il est vrai, continua-t-il. Je m'y suis trompé quelquefois avec les forçats arabes quand je les en recherche à Toulon. Les orientaux n'ont pas d'âge et cela pourrait bien être plus vieux qu'ils ne paraissent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont répondu au mot d'ordre et je crois que nous tenons la piste. Faites entrer l'interprète, dit le magistrat à un des gardes. Oh, je crains bien, reprit Joffre, qu'ils ne nous servent pas à grand-chose. Je connais mes brigands. Ils ont lâché le mot de passe parce que je les ai surpris. Maintenant, ils seront muets comme des poissons. Essayons toujours, dit le guide, en faisant signe aux gardes, qui fit asseoir les prévenus en appuyant sur leurs épaules. Les deux bandits prirent place sur deux chaises, croisèrent les jambes à la manière orientale et donnèrent à leur physionomie une expression de calme stupide. L'interprète entra et commença à traduire les questions que le magistrat avait préparées. Il leur parla d'abord en turc sans obtenir de réponse. Mais quand il eut recours à l'arabe, la langue des prévenus se dénoua subitement. Ils ne firent aucune difficulté de donner leur nom et d'indiquer leur nationalité. L'un se nommait Ali, l'autre Omar. Ils se dirent originaires de Syrie et racontèrent que M. de Pancorvo les avait pris à son service l'année précédente pendant son voyage en Orient. Quant aux habitudes de leur maître, à la vie qu'ils menaient et surtout à l'affaire de Montmartre, ils ne savaient rien ou ne voulaient rien dire. Nous avons été engagés pour soigner les chevaux et nous ne manions pas d'autre chose. Telle fut leur réponse invariable. On eut beau les presser de 100 façons, leur tendre même des pièges, ils ne varièrent jamais et ne sortirent pas de leur système. Le Seigneur est mort, disait-il, et la mort délie les serviteurs de leur engagement. Nous demandons qu'on nous paie nos gages et qu'on nous renvoie à Beyrouth. Il était évident qu'en persistant dans cette voie, on n'aboutirait à rien, car les explications de ces coquins étaient naturelles et même plausibles. Le juge se rattacha donc à la seule lueur qui eût brillé un instant dans cette obscurité et dit à l'interprète de répéter les mots qui, dans la bouche de Jotra, avaient produit un si étrange effet. Mais cette fois, les brigands, mieux préparés, ne bronchèrent pas. L'un d'eux poussa l'impudence jusqu'à demander ce qu'il voulait dire par cette phrase. Il devenait évident que, faute d'éclaircissement nouveau, on ne tirerait rien de ces deux hommes, et le magistrat se décida à les renvoyer en prison, sauf à les interroger plus tard quand il aurait pu recueillir ailleurs quelques témoignages décisifs. Il se proposait notamment de confronter les sauvages avec les victimes des attaques nocturnes. Avant de lever la séance, il voulut essayer de les effrayer et il leur fit dire, par l'interprète, qu'on les retiendrait en prison jusqu'au jour où ils diraient la vérité. Allah Karim, Dieu est miséricordieux, répondirent-ils en même temps les deux Arabes, et cette formule favorite du fatalisme musulman termina l'interrogatoire. Que pensez-vous de ces hommes? Dit le juge à l'interprète quand les gardes eurent emmené les prévenus. Oh, ils ne sont pas originaires de Syrie, comme ils le disent, répondit celui-ci, vieux drogman qui avait habité longtemps le Levant. Ils parlent l'arabe des États barbaresques, non pas cependant le dialecte d'Alger. Je les crois plutôt nés dans la région de Tunis ou dans celle de Tripoli. Et que veut dire cette phrase que vous ai chargé de leur répéter? Comme ou arabe? Oui, est-ce réellement une phrase d'une langue orientale? Non, ce sont trois mots arabes qui signifient littéralement bois et sauve-toi. C'est singulier, bois et sauve-toi. Ce sens se rapporte guère à l'usage que nous supposions à la phrase. Bon, dit Jotra, tout sens est bon pour un mot de passe. Mais, dit l'interprète avec quelque timidité, car il aimait guère à s'écarter de ses fonctions pour aider les interrogatoires, je me rappelle vaguement avoir entendu dire en Orient qu'il y a quelque part en Afrique, près de Derna, je crois, une fontaine qui sert de rendez-vous à tous les forbans de la côte et qui porte ce nom-là. C'est bien étrange, dit le juge pensif. J'aurai, je le crains bien, tout le temps de les revoir, car cette malheureuse affaire sera longue à instruire. Quand il eut congédié l'interprète, le juge reprit avec l'agent secret l'examen de toutes les circonstances de cet interrogatoire, si peu fécond en éclaircissement. Jotra, lui, avait une conviction arrêtée. Ces deux hommes avaient dû faire partie de la bande de Morgan, ou tout au moins ils en connaissaient le secret, car l'expérience du mot de passe avait été décisive. Les magistrats étaient moins affirmatifs, et ils sentaient bien que la justice, qui ne se contente pas de probabilités et de conjectures, devait chercher ailleurs. « Oh, nous ne saurons rien, » dit-il avec un soupir, « tant que nous ne tiendrons pas ce loiseau. C'est une fatalité que cet homme nous ait glissé entre les mains. J'ai écrit à tous les parquets de France, et spécialement dans tous les ports de la Manche, car, je ne sais pourquoi, j'ai le pressentiment que cet homme a dû fuir par mer, et rien depuis 3 jours. » Pas un renseignement utile. Un garde entra avec une dépêche cachetée. Ah ! S'écria le juge avec un mouvement de joie. C'est du commissaire spécial de Boulogne-sur-Mer. Puis il fit sauter l'enveloppe d'une main impatiente et lut rapidement. À mesure qu'il parcourait la dépêche, sa figure se rembrunissait et quand il eut fini, il jeta la lettre sur un bureau avec un mouvement de dépit. C'est fini, s'écria-t-il. Ah, il est écrit que nous ne saurons rien. L'oiseau a réussi à passer en Angleterre. Tenez, ajouta-t-il en tendant la dépêche à Dofra. L'agent commença à lire à haute voix le rapport suivant, dont il commentait minutieusement chaque phrase. « Hier, dans la soirée, écrivait le commissaire de Boulogne-sur-Mer, j'ai été prévenu que 3 individus étrangers au pays étaient descendus dans une petite auberge de matelots du faubourg de Capécure. Ils étaient arrivés vers midi par la route de Paris dans une voiture qu'ils avaient louée au maître de poste d'Étaples et qu'ils ont quittée avant d'entrer en ville. » Ils parlaient anglais, n'avaient point de bagages et ont payé partout très largement et en or. L'un d'eux était blessé à la tête et au bras. Justement fondé à supposer que ces individus pouvaient être ceux qui m'ont été signalés par la dépêche de monsieur le préfet de police en date du 22 courant, j'ai fait prévenir immédiatement la gendarmerie et à la tombée de la nuit, je me suis transporté à l'auberge de la frégate accompagné de 2 agents et suivi à distance par un piquet de 4 gendarmes commandé par un brigadier. Quand nous nous sommes présentés chez le sieur Thomas, maître de la dite auberge, il nous a déclaré spontanément que les 3 voyageurs suspects étaient partis depuis 20 minutes environ et qu'ils avaient demandé le chemin pour se rendre au bord du Portel. J'ai donné aussitôt à la gendarmerie l'ordre de gagner le havre du Portel par la grève, pendant qu'avec les 2 agents, je me rendais au même lieu par le chemin vicinal qui suit le haut de la falaise. Après 1 heure de marche, nous sommes arrivés au bourg. La nuit était venue, mais le temps étant très clair et la lune dans son plein, nous avons aperçu les 3 individus au bas de la falaise. Ils semblaient se concerter sur le moyen de gagner une barque qui était sous voile à quelques encablures de terre. Nous nous sommes hâtés de descendre par le sentier qui mène au Havre, mais soit que nous ayons été vus, soit que les fugitifs eussent pris une décision, 2 d'entre eux se sont jetés à la nage et ont réussi à atteindre la barque qui a pris le large sur le champ, tandis que le 3e s'enfuyait par la grève dans la direction de Boulogne. Je n'ai pas cru devoir le poursuivre, pensant qu'il rencontrerait la gendarmerie que j'avais envoyée par le même chemin. Mais le brigadier m'a rejoint une demi-heure plus après et m'a déclaré que la hauteur de la marée, qui à cette heure battait déjà la falaise, l'avait empêché de suivre la grève et obligé de prendre avec ses hommes la route de terre. Il est probable que l'individu qui ne s'est pas embarqué aura été lui-même surpris par la mer et qu'il se sera noyé. Je fais faire des recherches sur tout le littoral, mais le corps n'a pas encore été retrouvé. La barque qui a emmené les deux autres avait croisé toute la journée en vue de la côte et tout fait supposer qu'elle est anglaise. Je m'empresse de porter sommairement ces faits à la connaissance de M. le préfet, et demain j'aurai l'honneur de lui adresser un rapport plus détaillé. Post-scriptum, un de mes agents affirme qu'il a pu distinguer à la clarté de la lune l'individu qui est resté à terre et que cet homme portait au bras un écharpe. Cette circonstance expliquerait pourquoi il ne s'est pas jeté à la nage comme les autres et rend très probable la supposition qu'il aura péri en suivant la grève. Trois hommes, dont un blessé, dit Jotra après un moment de silence. Probablement l'oiseau, l'intendant irlandais et un troisième bandit que nous ne connaissons pas encore. Ces agents de province sont vraiment trop maladroits. Bon, l'important, c'est que le blessé n'a pas pu filer. Peut-être n'est-il pas si loyé qu'on le pense, et avec celui-là, nous retrouverons les autres. Non, Geoffra, non, 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 dit le juge, en secouant la tête d'un air de doute. Nous ne retrouverons pas les autres. Il y a un sort sur cette affaire. Et tant que nous ne tiendrons pas ce personnage énigmatique, ce l'oiseau, nous n'aboutirons à rien. À ce moment, on entendit dans le couloir qui précédait le cabinet du juge d'instruction des pas précipités, et ce bruit métallique des fourreaux de sabre heurtant les murailles qui signale toujours la présence des gendarmes. En même temps, des voix qui semblaient se disputer s'élevaient progressivement à un diapason qui finit par attirer l'attention du magistrat. « Voyez donc, Geoffra, ce que peut-être est faire cesser ce vacarme. »« Qui sait ?» dit le vieil agent. « C'est pas renseignement qui nous arrive. » Mais la porte s'ouvrit et laissa passer un groupe tumultueux en tête duquel marchait un officier de paix. Quatre gendarmes maintenaient à grand-peine un grand gars aux formes athlétiques qui paraissait d'arriver au paroxysme de la colère. « Qu'y a-t-il ? » dit le juge avec une dignité froide. Le prisonnier se calma comme par enchantement. La supériorité morale du magistrat avait dompté en une seconde. L'officier de paix profita de cette embellie pour prendre la parole. « Monsieur le juge d'instruction, » dit-il, « voici un individu qui a été arrêté ce matin à la barrière de Clichy, conduisant un cabriolet qui nous avait été signalé par dépêche télégraphique du commissaire spécial de Boulogne-sur-Mer. » Le juge et le vieil agent échangèrent un regard. Il a fait courir jusqu'au boulevard Saint-Martin les agents que j'avais placés au poste de l'octroi, et il en a presque assommé deux. L'homme qu'il conduisait a trouvé le moyen de descendre dans le trajet de la barrière au boulevard, et cet homme doit être un des assassins de Montmartre, car son signalement se rapporte bien à celui qui nous a été transmis. « Un assassin avec moi, il n'y a pas de risque !» interrompit le gars en haussant les épaules. D'un coup d'œil, le magistrat avait compris. On tenait peut-être une indication. Et pour l'utiliser, il importait avant tout de ne pas effrayer le prisonnier. « Qui êtes-vous, mon ami ?» demanda-t-il doucement. « Jean Vimereux, de Marquise, à 4 lieues de Boulogne-sur-Mer, pour vous servir, monsieur. Vous venez d'être arrêté avec un homme poursuivi par la justice. Foi de Dieu, mon bon juge, je sais pas pourquoi. Je suis cocher de mon état, cocher de la place Boulogne. » Voiture numéro 52. Et si on ne peut plus mener ces voyageurs à présent, Alors, ne vous effrayez pas, mais racontez-moi votre affaire. Voilà ce que c'est, dit l'homme, tout à fait rassuré. Pour l'or, avant-hier soir, sur le coup de 9 heures, je revenais de porter la Boulogne par le chemin de la falaise. À ce nom, le magistrat redoubla d'attention. Peut-il aller conduire deux Hollandais qui font le commerce des harengs, sauf votre respect, et je rentrais à vide. Et voilà qu'en haut d'une petite côte, il faisait clair de lune qu'on y voyait comme en plein jour. J'aperçois dans un champ de colza un homme qui courait sur moi. Par exemple, là, je ne sais pas d'où il sortait, car du côté de là, il n'y a que de la falaise, et le tapis qu'une chèvre y grimperait pas. Enfin, n'importe. Il me crie d'arrêter, et moi, qui n'étais pas fâché de charger en retour, je l'attends et je vois arriver un particulier qui n'avait pas trop bonne mine, ça c'est vrai, quoiqu'il fût bien habillé. Il était pâle comme un Parisien qui a le mal de mer et avec ça un bras pendu dans un mouchoir. « Cocher !» qui me crie avec un accent d'Anglitch qu'il était, « 100 francs pour me mener à Abbeville cette nuit. » « Ça va, bourgeois, que je lui dis. » Et il monte. « Abrégez, mon ami, abrégez, » dit le juge, qui soutenait à peine son impatience. « Cet homme vous a proposé de le conduire à Paris, et vous l'y avez mené. Que s'est-il passé à votre arrivée? Où ce prétendu Anglais vous avait-il dit de le conduire ?»« En bas de Passy, à la barrière des Bois-Hommes. » »« À Passy, c'est singulier. » Il ne vous a pas dit autre chose? Oh, pas 10 paroles dans la route. C'est bien, je vous crois. On prendra des renseignements sur vous. Si vous avez dit la vérité, demain vous serez libre. Faites conduire cet homme au dépôt, ajouta le magistrat en s'adressant à l'officier de paix, et revenez à mon cabinet demain matin avec les rapports des agents. Quand le juge d'instruction se retrouva seul avec Joffre, il ne put retenir l'expression de son désappointement. « Que vous disais-je » fit-il tristement. « N'y a-t-il pas une fatalité sur cette affaire? Des agents postés à toutes les barrières, l'assassin reconnu et il nous échappe encore. Oui, mais nous sommes sûrs qu'il n'a pas passé la Manche et nous tenons une indication, pas si. C'est bien vague. » Que peut-il avoir à faire à Passy et pourquoi ce misérable revient-il à Paris? Qui sait, peut-être pour mettre en sûreté des papiers importants ou pour détruire des pièces compromettantes. J'ai peine à croire à tant d'audace. Quoi qu'il en soit, ne perdez pas une minute et remettez vos meilleurs agents en campagne. Demain matin, je questionnerai de nouveau ce cocher et nous examinerons les renseignements que vous aurez pu ramasser. À demain donc, et Dieu veuille que nous ayons la main plus heureuse. Mais je crois bien que ce crime de Montmartre ne reste impuni, comme tant d'autres. En achevant cette phrase, le juge s'était levé et il se préparait à quitter son cabinet, quand un huissier entra et lui annonça qu'un monsieur, qui refusait de dire son nom, demandait à lui parler pour une communication urgente au sujet de l'affaire de Montmartre. « Mais je ne sais trop si j'ai le temps de recevoir, » dit le magistrat. « Il faut que je voie ce matin même, monsieur le procureur général. Cependant, bon, une communication urgente. Les renseignements n'abondent pas et je ne veux pas négliger celui-là. Allez, faites entrer. Restez, Jotrard. J'aurai peut-être besoin de vous. » L'huissier est sorti et un instant après, il introduisit le visiteur. C'était un homme de taille moyenne et d'une tournure distinguée. Il était entièrement vêtu de noir. Son visage était d'une pâleur livide et ses yeux brillaient d'un feu sombre. Il portait un bras en écharpe et un bandeau sur le front. Il s'arrêta un instant à l'entrée du cabinet, comme s'il eût cherché à rassembler ses forces, puis il marcha lentement vers le bureau du juge. On eût dit la statue du commandeur dans le festin de pierre, et à cette étrange apparition, Le magistrat se demanda s'il n'avait pas affaire à un fou. Il reculait instinctivement et le fantôme en habit noir avançait toujours. « Que me voulez-vous, monsieur ? » dit avec hauteur le juge, choqué de cette entrée théâtrale. « C'est moi qui ai tué monsieur de Pancorvo, » dit l'inconnu. Puis il chancela et roula évanoui au pied du juge d'instruction.